On va ouvrir notre Bible, si vous êtes d'accord. On va prendre un extrait du livre des Nombres. Bizarre pour cette période de Noël, le livre des Nombres. Et je vais vous proposer un extrait du chapitre 24. Nombre 24, versets 3 et suivants. Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Péor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de leurs flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Texte bizarre, n'est-ce pas? En bas, en haut. En bas, en haut. Pourquoi cette introduction? Essayons de comprendre un peu ce qui se passe quand nous lisons cet extrait. Un extrait assez étonnant, assez bizarre. Il faut comprendre que le peuple d'Israël s'approche de la terre promise après 40 ans pratiquement de vie dans le désert. Vous connaissez le récit, Israël esclave en Égypte, libéré par la main puissante de Dieu, un conducteur humain, Moïse, une traversée longue, difficile. Nous sommes là proches du pays d'Israël, de la terre promise. Mais voilà, il y a des épreuves, de l'opposition. C'est le cas, par exemple, avec le peuple des Édomites. C'est dommage, parce que les Édomites, descendants de Édom, ou si vous préférez, Ésaü, frère de Jacob, tiens, vous rendez compte que c'est le peuple frère d'Israël qui va bloquer, qui va l'empêcher d'avancer. Et puis il y a ici, dans le contexte qui nous préoccupe, un autre peuple, les Moabites. Les Moabites, ce sont les descendants de Lot, neveux d'Abraham. C'est encore la famille, même si c'est la famille plus éloignée. Et cette famille s'oppose à ce que Israël rentre dans son pays. Et pour montrer cette opposition, le roi de Moab, c'est un certain Balak, va chercher, il dit comment est-ce que je peux faire pour empêcher ce peuple de passer. Et il a une idée extraordinaire. Je vais essayer de trouver un prophète de Dieu. Je vais essayer de trouver un prophète et je vais lui dire de venir maudire le peuple. Maudire, c'est vouer au malheur, vouer à la destruction, vouer à la souffrance. Alors, ce ne sera plus nous. C'est Dieu qui va le faire, n'est-ce pas? Puisque c'est lui qui va maudire. Alors il nous faudrait quelqu'un. Et ils vont se mettre à la recherche d'un prophète. La Bible ne dit pas qu'il est prophète, mais il y a un homme assez bizarre, un certain Balaam. Balaam, la Bible ne dit pas qu'il est prophète. Et il a des méthodes un petit peu bizarres pour un prophète. Et cependant, c'est un homme qui connaît Dieu et qui a une connaissance assez précise. Le roi Balak dit, on va prendre une délégation, on va envoyer cette délégation tout près de Balaam, tu viens avec nous maudire le peuple et nous, on va t'enrichir. Et Balaam, d'une manière très spirituelle, quand il reçoit cette première délégation, se dit, écoutez, je vais demander à Dieu ce qu'il pense. Revenez demain. Et Balaam va prendre la nuit pour demander conseil à Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne vas pas aller avec eux. On ne maudit pas le peuple que moi je bénis. Et le lendemain, Balaam leur dit, écoutez, moi je ne peux pas aller. Dieu a dit non. La délégation retourne près du roi Balak, et Balak dit, on va envoyer une délégation plus forte, avec un peu plus d'argent. Pognon, chacun à son prix, n'est-ce pas? Et on y va. Et puis, la délégation revient tout près de Balaam. Balaam dit, je vais passer la nuit en prière, et demain, je vous dis quoi? Et Dieu lui dit, tu peux aller avec, mais tu béniras le peuple, tu n'iras pas pour le maudire. Alors, je vous passe pas mal de détails. Finalement, Balaam part. Et il ne va pas faire beaucoup de bonnes choses, parce que plus tard, la Bible va parler de la voix de Balaam comme étant l'homme qui voit plus l'argent, qui est intéressé, qui perd un petit peu sa spiritualité au profit des biens matériels. Mais il y a des choses qui sont étonnantes et remarquables dans ce livre. Prenez la peine de relire les chapitres 22, 23 et 24. Vous aurez une partie de plaisir avec Balaam, par exemple, quand il se met en route et qu'il est monté sur son ânesse. Vous connaissez le récit, hein? Il est là sur son ânesse, il se met en route, officiellement, pour aller vers le roi Balak. Et puis, lui, Balaam, n'a aucune vision spirituelle. Mais l'ânesse en a une, elle voit un ange. Dieu a mis un ange sur la route, l'ânesse voit l'ange, Balaam ne le voit pas. Et quand l'ânesse voit l'ange, elle fait un écart. Et Balaam, il est là, sur son ânesse, comme dans une deux chevaux. Puis, deuxième fois, Dieu remet un ange. Et Balaam ne voit pas l'ange. Mais l'ânesse voit l'ange et elle a un écart. Et puis, cela arrive une troisième fois. Et à ce moment-là, Balaam, il est renversé. Et quand il se retrouve les quatre fers en l'air, à son niveau au niveau de son ânesse, il prend son bâton et frappe sur la pauvre bête. Et la Bible dit que Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse et qu'elle a parlé. C'est pas la première fois qu'un animal parle dans la Bible. Dans le jardin d'Éden, c'est un serpent qui avait parlé. Et ici, ah tiens, c'est une ânesse qui parle. Pourquoi m'as-tu frappé à trois reprises? Beaucoup de gens se disent, c'est pas possible qu'une ânesse parle. Une ânesse qui parle comme un homme. Entre nous soit dit, moi je connais beaucoup d'hommes qui parlent comme des baudets. Vous êtes d'accord avec moi? Et Balaam se met en route. Balaam est là. Et il est avec le peuple. Il va le bénir une première fois, puis une seconde fois. Si vous êtes d'accord, laissons de côté Balaam. Venons dans le camp du peuple d'Israël. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Il est là à la frontière, après 40 ans de lutte, de difficultés. Mais si nous regardons bien, nous on lit l'histoire comme ça, le peuple d'Israël quitte l'Égypte, il se met en route, il va vers la terre promise. Et la Bible dit que le désert était un désert affreux. Et vivre dans un désert, ce n'est pas une partie de plaisir. Imaginez tous les problèmes que ça devait poser pour le peuple. Pratiquement 1 million de personnes. Maman, je veux aller à la toilette. Allez trouver des toilettes publiques quand il y a presque 1 million de témoins. Il faut que j'accouche. Comment je vais faire? Un petit coin tranquille. Il n'y a pas de maternité. Imaginez qu'il fallait prendre son barda. Le soir, il fallait monter la tente. Il faisait glacial la nuit. Et puis le lendemain matin, démonter cette tente, recharger, repartir. La vie dans le désert, c'était pas facile. Marcher, la chaleur, les difficultés de vivre ensemble, c'était pas évident. Penser à tous les besoins qui devaient se poser à ce peuple. Moïse, toujours en activité, toujours de service. Mais à côté de cela, des difficultés du voyage, il y a les difficultés du peuple lui-même. Regardez le peuple en bas. Que se passe-t-il ? Depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, ils n'ont jamais assez cessé de rouspéter. Ils n'ont jamais cessé de râler. Déjà en arrivant devant la mer Rouge. Et Dieu va nous amener ici pour nous faire mourir. Et Dieu intervient. Ils traversent la mer Rouge à pied sec. Ils se mettent en route. Ils arrivent à Mara. Les eaux sont amères. Et Dieu va nous faire mourir de soif ici dans le désert. Et Dieu intervient. À la prière de Moïse, l'eau devient pure. Tout le long, le peuple rouspète. Tout le long, le peuple se rebelle. J'ai trouvé dans ma Bible le psaume 106. Je ne vais faire que vous lire quelques extraits que je plonge comme ça. Mais si vous avez l'occasion, relisez cela chez vous. Vous allez voir. Écoutez bien. Verset 6. « Nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. » Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappellent pas la multitude de tes grâces. Ils chantèrent les louanges, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Verset 14. Ils furent saisis de convoitise dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans la solitude. Ils se montrèrent dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit, elle engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Verset 19. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de métal fondu. Ils échangèrent leur gloire. 21. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Verset 24. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente, ils n'obéirent pas à sa voix. Ils s'attachèrent à Baal-Péor. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Meriba. Ils se mêlèrent avec les nations. Ils servirent leurs idoles. Ils répandirent le sang innocent. Ils se souillèrent par leurs œuvres. Plusieurs fois Dieu les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins. Ils devinrent malheureux par leurs iniquités. C'était un exemple. Un peuple difficile, un peuple qui râle, un peuple qui brouspète, un peuple qui bloque vraiment tout, un peuple en fait qui ne doit sa survie qu'à la grâce de Dieu, à sa puissance, à sa patience, à son amour. Il y avait des hommes fidèles, c'est vrai, mais quel peuple! Quel peuple difficile que ce peuple-là. Quand on relit tout ce qu'on apprend, on se demande, mais quelle patience Dieu a eu avec ça. Franchement, c'est quand même écœurant quand on voit tout ce que Dieu a fait, comment il réagit. Mais ça, c'est vu d'en bas. Revenons à Balaam. À deux reprises, il a béni le peuple. Et le Balak lui dit, tu viens avec moi, viens sur la montagne, viens, et là tu vas maudire le peuple. Et Balaam arrive sur cette montagne, et quand il arrive sur cette montagne, vous avez remarqué ce qu'on nous dit? Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle, et qu'est-ce qu'il dit? Verset 5. Quelles sont belles tes tentes, ô Israël. Vu d'en bas, quelle misère. Mais quand Balaam regarde avec l'Esprit de Dieu, il voit autre chose. Quelles sont belles tes tentes, ô Israël. Qu'est-ce qu'il voit? Il regarde, il voit le tabernacle qui est là. Ce lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Il voit le peuple qui est bien placé, par tribu, tout autour du tabernacle. Il voit comme Dieu a donné l'ordre des tribus au nord, trois tribus au sud, trois à l'est, trois à l'ouest. Il voit un peuple qui est le peuple de Dieu, il voit un peuple uni. Et en même temps, il voit un peuple avec des caractéristiques différentes. Chaque tribu a sa personnalité. Chaque tribu a son étendard. Elle a son drapeau. Elle a son ministère. Elle a ses qualifications. Elle a ses dons. Et quand Balaam regarde, il voit un peuple uni et un peuple dans sa diversité. Et il ne peut là que reconnaître qu'elles sont belles tes tentes, ô Israël. Quel regard! Le regard d'en bas et le regard d'en haut. Mais pourquoi est-ce que nous avons cela dans notre Bible? Si nous regardons un petit peu aujourd'hui le peuple de Dieu, pendant un temps, Dieu a mis de côté Israël et il se construit un peuple, ce peuple que l'on appelle l'Église, ce peuple qui est aujourd'hui le peuple de Dieu. Voulez-vous qu'on le regarde, ce peuple, d'en bas? Mais que de problèmes dans nos églises, n'est-ce pas? Que de misère, que de souffrance, que d'échecs, des mensonges, des jalousies, des problèmes. C'est vrai qu'il y a les persécutions aujourd'hui pour les chrétiens. C'est vrai que de plus en plus, on restreint nos libertés. On ne peut plus fêter Noël, n'est-ce pas, dans les écoles. C'est fini. On ne peut plus célébrer Pâques. C'est fini. On ne peut plus avoir des signes extérieurs. Vivre sa foi est de plus en plus difficile. Mais à côté de cela, il y a tous les problèmes d'en bas dans nos églises. Faut-il simplement en rappeler quelques-uns? Voulez-vous, par exemple, le Seigneur Jésus parle à ses disciples. Il leur raconte quelque chose de tellement important, ses souffrances et sa mort. Moment solennel. Parler de vos souffrances et de votre mort, c'est difficile, n'est-ce pas? Et tout de suite après, que font les disciples? Le plus important, c'est moi, hein, toi, tu n'es pas après. Ils sont en train de savoir qui est le plus grand parmi eux. Ils s'en fichent de la mort de Jésus. Ils s'en fichent des souffrances de Jésus. Ce qui les intéresse, c'est leur petite place dans le ciel. Voulez-vous que nous regardions un petit peu ce qui se passe dans les églises? Depuis le début du livre des Actes, au début c'est Ananias et Saphira, c'est du mensonge. Et puis au chapitre 6, qu'on s'aperçoit, des femmes qui sont en train de se disputer pour des loques. Ah, il y a plus de vêtements. Et les vêtements qu'on donne, c'est toujours pour les mêmes. Et nous... Incroyable, n'est-ce pas? C'est l'œuvre de Dieu vue d'en bas, ça. Regardez les responsables. Barnabas et Paul. Premier voyage missionnaire. Oh, ça va bien, on travaille bien ensemble. Deuxième voyage en missionnaire, ils disputent, ils séparent. Et puis plus tard, Paul va s'en prendre avec Pierre, un hypocrite. Elle est belle l'église, n'est-ce pas, vue d'en bas? Je voudrais regarder l'église de Corinthe, vous voulez? Moi, je ne cherche jamais à être pasteur à Corinthe. Mais mes amis, vous avez des problèmes, il y a des clans. Moi, je suis Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis ici, moi, je suis là. Ah, je préfère Gaston. Ah non, moi, je préfère Jules. Je préfère ceci, je préfère... Et puis, il y a les problèmes de doctrine. Il y a des problèmes de moralité. Vous avez tous les problèmes possibles et inimaginables dans cette église. Et pourtant, ils ont tous les dons. Vous avez remarqué, ceux qui abandonnent, Démas m'a abandonné par amour pour le présent siècle mauvais. Combien de personnes ont fréquenté l'église ici depuis qu'elle est construite? Combien ont abandonné par amour pour le présent siècle mauvais? Voulez-vous des exemples? Prenez chaque épître de Paul. Et chaque épître de Paul va vous donner quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours des problèmes, toujours des difficultés. L'épître aux Romains, il faut mettre les chrétiens en garde contre les divisions. Il y a attention, il y a ceux qui font le mal. L'apôtre Paul dira, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il y a les deux femmes, n'est-ce pas, qui disputent, Hyménée et Alexandre, qui blasphèment. Et Évodie, Saint-Chic, qui ne s'entendent pas. C'est un triste tableau qu'offre l'Église. Vu d'en bas, franchement, l'Église, pas fière, hein. Si nous sommes honnêtes, il faut reconnaître qu'il faut beaucoup de courage pour en faire partie, hein. Si nous sommes honnêtes, combien de fois est-ce qu'il n'y a pas des souffrances, des divisions? Il y a des pasteurs qui sont usés dans leur église uniquement pour accommoder les gens. Pour essayer de voir les choses qui se débloquent. Mais que c'est difficile aujourd'hui. Ce qui va amener un chrétien, un poète d'écrire « Combien j'aimerais le christianisme s'il n'y avait pas les chrétiens. » Terrible, n'est-ce pas, quand on entend cela. Terrible. Ah oui, les gens aiment bien une église parfaite. Il faudrait que l'église soit parfaite. Vous voulez une église parfaite, vous l'avez trouvée. Maintenant, vous êtes dedans. Elle est encore parfaite? Soyons quand même conséquents, soyons conscients que nous pouvons être terriblement déçus par l'Église. Et on peut être terriblement déçus, et c'est pour cela qu'il ne faut pas l'idéaliser. Il y a plus grand que l'Église, il y a le Seigneur de l'Église. Ne fixez pas seulement vos yeux sur l'Église, mais fixez vos yeux sur ce que le Seigneur fait. Pourtant, dans nos églises, il y a des âmes qui sont fantastiques. Il y a des bonnes volontés. Il y a des gens fidèles, courageux. L'Église, elle a une histoire formidable, un pèlerinage douloureux, c'est vrai. Mais l'Église, elle a tellement de problèmes. Mais je me rends compte que ce n'est pas nouveau. Relisez les églises, ce que l'Apocalypse dit concernant les sept églises d'Asie. Ah, ce que j'ai que... Il y a toujours quelque chose de bien que le Seigneur remarque, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Soyons réalistes. Il y a toujours des choses qui ne vont pas dans nos églises. Et aujourd'hui, nos églises ne sont pas toujours, faut-il le reconnaître, à la grâce de Dieu. Mais l'Église ne survit, comme pour Israël, que par la grâce, la puissance et la patience de Dieu. Dieu aime l'Église. Et lorsque nous nous souvenons de Jésus qui est né, nous voyons un Sauveur qui nous est donné. J'ai un Sauveur, c'est formidable. Mais nous oublions qu'il est venu pourquoi ? Je bâtirai mon Église. Il veut nous donner une vision beaucoup plus grande de sa venue sur terre. Il n'est pas venu simplement pour me sauver ou pour te sauver. Il est venu pour se construire une église. Alors, je vous invite ce matin à quitter le regard d'en bas et à avoir un regard d'en haut. Passez par la crèche. Et puis de là, allez monter sur la colline de Golgotha. Montez sur le mont des Oliviers et ayez une vision d'en haut, pas la vision d'en bas, où on est découragé, où on est démotivé, où on est déçu. Mais regardez l'Église d'en haut. Vous êtes, dit l'apôtre Pierre, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Mais ça change tout. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous êtes le peuple de Dieu, un peuple acquis. Vous faites partie de l'Église que Dieu aime et qu'il s'est acquise par son propre sang. Elle est belle, l'Église, quand on la regarde d'en haut. Elle est belle parce qu'on voit son unité. Hein? L'unité de l'Église aujourd'hui? Oh non. Vu d'en bas, vous ne la voyez pas. Regardez là d'en haut. Regardez là d'en haut. L'apôtre Paul nous parle de l'unité de l'esprit. Il nous parle de l'unité de la foi. Vous voyez cette unité de l'esprit? Vous voyez cette unité de la foi? Il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Éphésiens 4. Paul avait la vision d'en haut. Ayez cette vision. Elle est belle, l'Église de Jésus-Christ. Elle est belle. Il l'appelle ma bien-aimée, cantique des cantiques. C'est sa bien-aimée, que tu es belle. Nous voyons cela. Regardez l'Église aujourd'hui et regardez comment Jean la voit dans sa vision de l'Apocalypse. Elle est préparée, parée comme une épouse. Vive la mariée, elle est belle la mariée. L'Église est fiancée, je vous ai fiancé à un seul époux. Et l'Église, elle est belle. Et le Seigneur la prépare sans tache, ni ride, pour le jour où il va venir la chercher. Cessez d'avoir une petite vision de l'Église. Cessez d'avoir une vision négative de l'Église. Elle est belle de par son unité. Elle est belle de par sa diversité. Nous avons tous des dons différents. Nous avons des ministères différents. Dieu nous appelle à des choses différentes. Mais c'est ce qui va faire la beauté et la complémentarité. Entre nous soit dit, prenez la couleur que vous aimez. Le bleu. Ciel bleu, ça va. De l'herbe bleue, évidemment, ça pose un problème. Tout en bleu, le même ton. Ce serait moche. Mais heureusement qu'il y a une variété, une palette de couleurs. Vous aimez un animal, le chien, imaginez, des milliards de chiens, même format, même race, ils seraient clownés. Mais heureusement que Dieu a fait des animaux différents, rien que les fourmis, il en a fait 2000 espèces. Vous imaginez? Mais quelle beauté, quelle variété! Mais nous avons tous des dons différents. Imaginez que tout le monde soit pasteur, ce soit invivable. Ce serait invivable. Mais heureusement, il n'y a pas que des pasteurs. Il y a... Mais Dieu a voulu qu'il y ait des techniciens, des mécaniciens, des médecins. S'il n'y avait que des médecins, qui va réparer les plombiers, la plomberie? Qui va réparer la voiture? Non, nous avons besoin des uns des autres. Et Dieu voit la diversité comme une bénédiction. Il ne voit pas ça comme une source de division, mais comme un tout. Quelle est belle l'Église. Cessez de voir l'Église d'une manière négative. Cessez de voir l'Église avec ses misères. Voyez les choses d'en haut. Et alors vous allez regarder votre Église locale. Et vous allez dire, mais quelle est belle l'Église d'Otigny. Mais quelle est belle l'Église de Bruxelles. Mais quelle est belle l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et si vous avez cette vision, alors cette Église, vous allez la défendre. Alors cette Église, vous allez vous investir pour elle, parce qu'elle est belle et qu'elle est éternelle. Si vous avez cette vision, alors vous allez prier pour cette Église. Vous allez la soutenir matériellement, spirituellement, mais vous allez prier pour elle. Non pas simplement, Seigneur, je te prie de bénir l'Église, amen. Après ça, on dort bien. Non, non, vous allez citer le nom de vos frères et de vos sœurs. Je te prie pour ce frère-là. Seigneur, je te prie pour cette sœur, fortifie-la. Et je te prie pour les enfants, mais je te prie pour l'avenir de l'Église. Que vous allez vous défoncer pour cette Église, parce que vous aurez compris que le Seigneur, il y attache un grand prix. Elle est belle, l'Église. Alors, si c'est le cas, allez-y de l'avant avec elle.